L'avenir de qui? Pas le tien, j'espère, répondit sa sœur, plus énigmatique encore. Mais je l'adore, ce rêve. C'est un rêve de mort, conclut Loupé, sans vouloir s'étendre davantage. Mais aujourd'hui qu'il avait pris de l'âge, et depuis qu'il absorbait des bêta-bloquants, ce rêve de marche sur le ciel était perdu pour lui. Et il n'arrivait pas non plus à revivre le cauchemar de ce matin lointain où il était devenu infirme, à Guerrero. Il s'en était plaint à son médecin. « Tes bêta-bloquants, ils me bloquent aussi la mémoire, ils me volent mon enfance, ils me volent mes rêves !» Son docteur mettait cette outrance sur le compte des bouffées d'adrénaline qui lui manquaient désormais, parce que les bêta-bloquants, ça lui joue un drôle de tour à l'adrénaline. Son médecin, une femme pragmatique nommée Rosemary Stein, était une amie très proche depuis une vingtaine d'années. Elle avait l'habitude de ses exagérations hystériques. Elle savait très bien pourquoi elle avait prescrit des bêta-bloquants à son ami, pour lui éviter la crise cardiaque. Non seulement il avait 17 de tension, mais sa mère et l'un de ses pères hypothétiques étaient sans doute morts d'un arrêt du cœur prématurément. Juan Diego ne manquait pas d'adrénaline, cette hormone de l'urgence qu'on sécrète dans les instants de stress devant une catastrophe, quand on est pris d'anxiété face à une exigence de performance, ou bien pendant une crise cardiaque. L'adrénaline fait refluer le sang des boyaux et des viscères et l'envoie dans les muscles du sujet pour lui permettre de courir. Les bêta-bloquants ne préviennent pas la crise cardiaque, avait expliqué le docteur Stein, mais ils bloquent les récepteurs d'adrénaline et ainsi, ils protègent le cœur des effets dévastateurs de celles qu'on produit lors d'une crise. Et ils sont où, ces foutus récepteurs d'adrénaline, avait demandé Juan Diego à son docteur Rosemary. Dans les poumons, les vaisseaux sanguins, le cœur partout, ou presque, lui avait-elle répondu. C'est l'adrénaline qui fait battre ton cœur plus vite. Tu respires plus fort, tes poils se dressent sur tes bras, tes pupilles se dilatent, tes vaisseaux se contractent, c'est pas bon ça, en cas de crise cardiaque. Et qu'est-ce qui est bon en cas de crise cardiaque? Les fouilleurs de décharge sont tenaces, et même têtus dans leur genre. Un cœur tranquille et détendu, un cœur qui bat lentement et pas de plus en plus vite. Quand on est sous bêta-bloquant, on a un pouls lent, il n'accélère pas, quelles que soient les circonstances. Faire baisser la tension n'est pas sans conséquence. Quand on est sous bêta-bloquant, il faut éviter l'alcool qui la fait remonter. Mais Juan Diego buvait peu. Bon, d'accord, il buvait de la bière, mais rien d'autre, et encore pas beaucoup. D'autre part, comme les bêta-bloquants freinent la circulation du sang dans les extrémités, on a froid aux mains et aux pieds. Mais c'était un effet secondaire dont il ne se plaignait pas. Il en avait plaisanté avec Rosemary. La sensation de froid, c'était un luxe pour qui avait grandi à Huachaca. Certains patients se plaignent d'une léthargie, d'une résistance amoindrie à l'effort physique. Mais à son âge, 54 ans, qu'est-ce que ça pouvait lui faire? Infirme, depuis ses 14 ans, il boitait. 40 ans de claudication, ça devait lui suffire comme exercice. Il n'en voulait pas davantage. Il aurait tout de même bien aimé se sentir plus vivant, pas aussi diminué. C'était le terme qui lui venait quand il parlait à Rosemary de son manque d'appétit sexuel. Il ne disait pas qu'il était impuissant, même à elle. L'adjectif « diminué » résumait tout son discours sur la question. « Je ne savais pas que tu avais des rapports sexuels ?» Le docteur Stein savait pertinemment qu'il n'en avait pas. « Cher docteur Rosemary, si j'en avais, je crois que je me sentirais diminué. » Elle lui avait prescrit du Viagra, 6 comprimés par mois, dosé à 100 mg, et lui avait conseillé d'en prendre pour voir. « N'attends pas de rencontrer quelqu'un. » Il n'avait pas attendu. Il n'avait rencontré personne, mais il avait vu. Et le docteur Stein lui avait renouvelé son ordonnance tous les mois. Peut-être qu'un demi-comprimé suffirait, lui suggéra Juan Diego après coup. Il stockait les pilules. Il ne s'était plaint d'aucun effet secondaire. Le Viagra lui permettait l'érection, il lui permettait l'orgasme, alors avoir le nez un peu bouché, il s'en fichait pas mal. Autre effet secondaire des bêta-bloquants, l'insomnie. Mais il n'y avait là rien de neuf ou de dérangeant pour lui. Être couché dans le noir en compagnie de ses démons, c'était presque rassurant. La plupart d'entre eux lui faisaient escorte depuis l'enfance. Il les connaissait si bien qu'ils lui étaient aussi familiers que des amis. Une dose excessive de bêta-bloquant peut provoquer des vertiges, voire des évanouissements, mais cette éventualité ne le tracassait pas davantage. Un infirme sait tomber, il a l'habitude. En revanche, plus encore que ses érections à éclipse, ses rêves décousus le perturbaient. Il n'y trouvait plus de chronologie plausible, pas plus que dans ses souvenirs. Il détestait ces bêta-bloquants qui l'avaient coupé de son enfance. Il faut croire que celle-ci lui importait plus qu'à la plupart des gens. Son enfance, les personnages qu'il y avait rencontrés, ceux qui avaient changé sa vie ou qui avaient été les témoins de ses expériences à cette époque cruciale, voilà ce qui lui tenait lieu de religion. Pour proche de lui qu'elle l'était, le docteur Rosemary Stein ne savait pas tout de Juan Diego. De son enfance, justement, elle ne savait pas grand-chose. Lorsqu'il lui parlait avec une véhémence inhabituelle des effets des bêta-bloquants, elle n'en comprenait pas les causes. Crois-moi, Rosemary, si j'avais été pratiquant au départ, tu sais que c'est pas le cas, et que les bêta-bloquants m'avaient fait perdre la foi, je ne viendrais pas m'en plaindre, au contraire, je te demanderais d'en prescrire à tout le monde. Encore des déclarations outrancières sur le mode hystérique, pensait le docteur Stein. Après tout, cet homme s'était brûlé les mains pour arracher des livres aux flammes, y compris des livres sur la religion catholique. Mais de sa vie sur la décharge, elle ne connaissait que des bribes. Elle en savait plus long sur sa vie d'adulte. L'enfant de Guerrero lui demeurait largement. Chapitre 2. La Vierge Monstre. Au lendemain de Noël 2010, New York avait été balayée par une tempête de neige. Le jour suivant, les rues de Manhattan, laissées en l'état, étaient jonchées de voitures et de taxis abandonnés. Un bus avait brûlé sur Madison Avenue, au niveau de la 62e rue Est. Ses pneus arrière avaient pris feu en patinant et déclenché l'incendie. La carcasse calcinée avait craché ses cendres sur la neige alentour. Pour les clients des hôtels en bordure de Central Park Sud, la blancheur immaculée du parc où s'aventuraient de rares familles avec enfants jouant dans la poudreuse allait de pair avec l'absence de toute circulation automobile sur les larges avenues et les petites rues avoisinantes. En ce matin de blancheur éclatante, Columbus Circle, silencieux et désert, avait quelque chose d'irréel. Au croisement habituellement très fréquenté de la 7e avenue et de la 59e rue Ouest, pas un seul taxi ne roulait. Les seuls véhicules en vue étaient échoués dans la neige qui les ensevelissait à moitié. Le paysage lunaire qui était celui de Manhattan en ce lundi matin avait amené le concierge de l'hôtel où résidait Juan Diego à solliciter une assistance particulière pour lui. Ce n'était pas le moment pour un handicapé de héler un taxi pour monter dedans. Il avait fait appel à une compagnie de limousines, pas parmi les meilleures, pour conduire Juan Diego dans le Queens, malgré les informations contradictoires qui circulaient sur l'aéroport Kennedy. À la télévision, on annonçait qu'il était fermé. Et pourtant, le vol Cathay Pacific pour Hong Kong, celui que Juan Diego comptait prendre, était censé décoller à l'heure. Malgré son scepticisme, il était convaincu que le vol serait retardé sinon annulé, le concierge avait cédé aux instances de son client infirme. Juan Diego se souciait en effet d'être à temps à l'aéroport, même si aucun vol ne décollait dans l'immédiat. Ce n'était pas tant Hong Kong qui l'intéressait. Il se serait même passé de ce détour. Mais deux de ses collègues l'avaient persuadé qu'il serait dommage d'aller jusqu'aux Philippines sans y faire escale. Qu'avait-il donc à voir là-bas? Sans bien saisir le système des miles ni comment on les calculait, il avait du moins compris que son vol sur Cathay Pacific ne lui coûterait pas un dollar. Et ses amis l'avaient convaincu que la première classe de cette compagnie constituait une de ces expériences qui valent le détour. Il se disait que s'il s'investissait tellement dans son voyage, c'était parce qu'il quittait l'université. Comment expliquer autrement qu'ils aient tant tenu à l'aider? Il y avait cependant d'autres raisons. Quoiqu'encore jeune pour prendre sa retraite, il n'en était pas moins handicapé. En outre, ses proches et ses collègues savaient qu'il suivait un traitement pour le cœur. « Je ne prends pas ma retraite d'écrivain », leur avait-il assuré. Il était d'ailleurs venu passer Noël à New York à l'invitation de son éditeur.